Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité en français sur la radio Nzamba Gate Kakawe. Les titres de ce samedi 18 juin 2022. La joie des militants du parti CNL à Guiharo aura été de courte durée. Ces derniers se préparaient à fêter le troisième anniversaire de leur parti ce samedi, mais ils ont été empêchés d'accéder au lieu des cérémonies par des jeunes du parti CNDD-FTD et des initiatives de cette commune de la province de Routa. Les recommandations issues des états généraux de l'éducation récemment tenus à Bujumbura n'ont pas répondu aux attentes du professeur Libera Ndibashirakandi. La politisation de l'école est l'un des problèmes qui mine le système éducatif burundais. Pourtant,
le sujet n'a pas été abordé.
Ce que regrette cet expert en éducation. Et ces états généraux de l'éducation tenus du 14 au 16 juin dernier, il en sera également question dans le mini magazine au cœur de la société de ce samedi. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bonjour, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Perturbation des activités.
Marquant le troisième anniversaire du parti CNL, cela s'est passé ce samedi en commune Guiharo de la province de Rutana. Des jeunes du parti au pouvoir ont occupé le terrain de football où devaient se dérouler les cérémonies. De leur côté, les autorités administratives de Guiharo ont interdit l'organisation des mêmes cérémonies à la permanence communale de ce parti dirigé par Agathe Rwasa. On fait le point avec Joséphine Jones Nkunziman.
Les administratifs à la base et les jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, étaient des sans acteurs dans la perturbation de ce meeting du parti CNL. Selon les responsables de ce parti d'opposition, la représentation de leur parti avait informé au préalable l'administration de ses activités prévues ce samedi. À leur grande surprise, l'administration communale de Guiharo leur a informé jeudi que le stade sera occupé par les militants du CNDD-FDD pour les activités de ce parti au pouvoir. Le comité d'organisation a vu que c'était des manigances pour interdire le CNL de célébrer son anniversaire. Le parti d'Agathe Rwasa n'a même pas eu le droit de fêter dans sa propre permanence communale. L'administration a indiqué que la proximité avec le stade ne peut pas permettre que les deux partis rivaux célèbrent côte à côte. Il fallut sacrifier le parti CNL. En réaction à ce refus de l'autorité communale d'accueillir les cérémonies dont Agathe Rwasa était l'invité de marque, le parti CNL a indiqué que les activités du CNDD-FTD ont été organisées dans le seul but de perturber celles du parti CNL qui devrait accueillir sa représentation au niveau national, selon les responsables du CNL contactés en commune de Guiharo de cette province de Rutana. Le chef de zone Butezi, Damas Nibahezwa, et les policiers ont exigé que cette fête doive se tenir sur la colline Gatonga, à plus de 5 km du chef-lieu de la commune de Guiharo. Pour le CNL, le parti au pouvoir a peur des rassemblements des militants de son principal parti de l'opposition dans cette commune, considérée comme fief du parti CNL en province de Rutana.
Nous sommes le 18 juin, journée internationale contre le discours de haine. Dans un message adressé à la région des Grands Lacs, particulièrement au peuple congolais, Bintou Keïta a exhorté tous les Congolais et toute la communauté de la sous-région à lutter contre le racisme et la xénophobie. Il ne faut qu'engendrer la violence, c'est le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, Bintou Keïta.
Aujourd'hui, 18 juin, marque la première journée internationale de lutte contre les discours de haine. À cette occasion, je souhaite réitérer ma profonde préoccupation face à la montée d'appels à la violence et à la haine en République démocratique du Congo, en particulier à l'est du pays. Les discours de haine entraînent la violence et nous divisent. Là où, au contraire, nous devons renforcer la cohésion et le vivre ensemble. C'est ce dont ont besoin les Congolaises et les Congolais. C'est ce dont ont besoin toutes les populations de la région des Grands Lacs. J'en appelle à toutes et à tous, tournons le dos au racisme et à la xénophobie. Ne cédons pas aux discours incendiaires qui n'ont que trop nourri la violence en République démocratique du Congo et chez nos voisins. Travaillons ensemble à la paix. Comme l'a souligné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les discours de haine sont un danger pour tous et c'est notre devoir à tous de les combattre.
C'était Bintou Keïta, chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo.
Au Burundi, les discours de haine ont été réduits chez les autorités du pays par rapport aux années passées sous le règne de feu Pierre Nkurunziza. Analyse du politologue Jean-Marie Nahimera. Il reconnaît toutefois que des messages de haine sont encore véhiculés par certains individus en milieu politique où il y a des catégories de personnes qui ne se sentent pas considérées par le pouvoir en place. Suivez.
Il y a maintenant quelque chose de positif. Il y a moins de discours de haine qui viennent des autorités supérieures. Contrairement aux années passées, par exemple, pendant le règne du président Pierre Nkurunziza, là, on se souvient qu'il utilisait beaucoup de discours de haine qui stigmatisaient les gens qui n'aimaient pas les gens qui appartenaient peut-être au parti d'opposition. Et quand, donc, les autorités supérieures, à commencer par le président de la République, utilisaient ce genre de discours, même les gens qui étaient autour de lui les utilisaient aussi très souvent et le climat était très toxique. Mais on peut dire que donc, depuis l'arrivée de Evariste Ndayishimiye au pouvoir, même si le système n'a pas fondamentalement changé, il a adopté une autre stratégie. Il essaie d'éviter, en tout cas publiquement, des discours de haine qui pourraient froisser les donateurs étrangers puisqu'il veut rétablir les bonnes relations avec, surtout avec l'Union européenne. Mais les discours de haine n'ont pas disparu dans l'espace public burundais. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trois sortes de discours de haine. Maintenant, il y a des discours de haine qui sont à la une, surtout qui viennent de la République démocratique du Congo, avec les conflits avec le Rwanda. Beaucoup de discours sur les réseaux sociaux disent que tous ces conflits-là, bon, l'OM23 et tous ceux qui les considèrent comme des ennemis de la RDC, sont des Tutsis et que les Tutsis détestent les Congolais et le Congo. Dans ce cas-là, donc, on voit que même les Burundais partagent ce genre de discours dans l'espace public burundais. Et quand on stigmatise un groupe ethnique qui existe à la fois au Congo, au Rwanda, même au Burundi et dans d'autres pays voisins, donc ça ne peut pas manquer de conséquences sur le moral des gens qui appartiennent à ce groupe ethnique et qui peuvent se sentir visés par rapport à ce qui se passe. Le deuxième point, ce sont les discours qui sont liés aux événements de 1972. On sait que récemment, l'RCVR a affirmé que ce qui s'est passé en 1972, c'était un génocide contre les Hutus. Bon, on sait que les massacres qui ont eu au Burundi n'ont pas eu lieu seulement en 1972. Les Tutsis, si on peut dire, ils peuvent se sentir, qu'ils sont oubliés parce qu'eux-mêmes, ils considèrent qu'à un certain moment, ce qui s'est passé en 1993, par exemple, pourrait constituer un génocide contre les Tutsis. Il y a une communauté qui se sent oubliée ou qui se sent négligée alors que les souffrances de notre communauté sont reconnues. Le troisième point, ça reste des discours de nature politique. On sait que parmi les autorités locales, dans différentes provinces, on entend des discours de stigmatisation, par exemple des membres du parti d'opposition SNL, qui sont souvent considérés comme des ibipinga.
Actualité judiciaire à présent, le docteur Christophe Sahabo devait être présenté à la chambre de conseil du tribunal de grande instance hier vendredi pour statuer sur sa détention préventive. L'ancien directeur de Kira Hospital est détenu à la prison centrale d'Omimba depuis le 17 mai dernier. Il est accusé d'avoir mal géré les fonds de cet hôpital pour Maître Gustave Niyonzima. Il y a violation de l'article 155 alinéa 4 du Code de procédure pénale. On l'écoute.
Conformément à l'article 155 alinéa 4 du Code de procédure pénale, si intervenu après la garde à vue passe devant l'officier du ministère public et qu'il est transféré à la prison centrale, en délai à 30 jours, il doit être présenté devant la chambre de conseil du tribunal de la circonscription dans laquelle il a été appréhendé. Dans le cas d'espèce, docteur Sahab Christophe a été présenté devant l'officier du ministère public le 17 mai 2022. Et hier, le 17 juin 2022, il devrait être présenté donc devant cette chambre. Mais rien n'a été fait. C'est une violation flagrante donc de l'article 155 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Comme sanction, en vertu des articles 217, 214 et 156 du Code de procédure pénale, il doit y avoir la nullité de la procédure lorsque le juge sera saisi. Aussi, cette nullité va engendrer une liberté provisoire à son égard. On espère que le droit sera dit, sinon ça va encore une fois nous prouver que le dossier est politique et que judiciaire. Même on voit qu'il y a plusieurs irrégularités qui viennent s'ajoindre à d'autres et a été commises au niveau de la phase de la garde à vue.
Inzamba.
Suite de cette édition avec les États généraux de l'éducation qui se sont tenus du 14 au 16 juin de cette année, les résultats des travaux de cette rencontre sont mitigés selon Libera Nibashirakandi. L'expert en éducation fait remarquer qu'aucune recommandation n'a soulevé la question de dépolitisation du système éducatif burundais. On l'écoute.
Les assises n'ont pas levé le flou quant au projet de l'école burundaise et à sa structure. Les états généraux auraient dû être un nouveau départ pour une refondation complète du système éducatif burundais à travers un nouveau projet de l'école burundaise qui forme un citoyen imprégné des valeurs de respect, de tolérance, de solidarité, de culte de la vérité, de sens élevé de responsabilité, de l'intégrité morale et de l'honnêteté, en plus des compétences d'analyse, de résolution des problèmes, d'esprit critique, d'esprit d'analyse et de synthèse, des capacités de communication correctement, oralement et par écrit, et la maîtrise d'au moins 3 langues, le kirundi et 2 langues étrangères, le français et l'anglais. Il n'y aura jamais de qualité de l'enseignement, ni un pilotage professionnel du système éducatif burundais, sans respect de ses valeurs énumérées. Il faut que les pilotes du système éducatif burundais puissent respecter les valeurs du Burundi et du Bushingandai. Il n'y aura jamais de qualité de l'enseignement et ni d'apprentissage actif sans projet de l'école qui restaure une discipline rigoureuse dans les établissements. Or, le contexte politique de ces 15 dernières années, avec des discours politiques qui violent les règles élémentaires quant aux valeurs burundaises, du Bushingandai et du Burundi, constitue un handicap majeur dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le recrutement des pilotes du système éducatif burundais, les enseignants, les directeurs d'école, les inspecteurs, et j'en passe, sur base de l'appartenance politique et ethnique, illustre parfaitement bien le mal dont souffre l'enseignement au Burundi.
Libera Nibashirakandi dénonce par ailleurs les spéculations dans l'élaboration de ces états généraux. On l'écoute encore une fois.
Alors qu'au cours des états généraux, il était question d'évaluer les réformes engagées, notamment l'école fondamentale, le BMD et l'école doctorale, rien n'a été fait et il y eut d'ailleurs un silence radio sur le rapport de l'évaluation de l'école fondamentale qui a été commandité par le gouvernement burundais et financé par l'UNICEF. Les recommandations des états généraux 2022 ont été lues sans demander aux participants de les reformuler, de les rejeter ou de les accepter. Deux exemples, la recommandation 15 fait référence à la privatisation des services sociaux de l'Université du Burundi, notamment les homes et la restauration, alors que la majorité des jeunes inscrits dans l'enseignement supérieur universitaire public sont issus des familles pauvres, sans revenus consistants. Pourquoi cette recommandation n'a pas été rejetée? S'agit-il, après moi, le déluge? Je n'en sais rien. Toutefois, il faut saluer les parents et les syndicalistes qui l'ont dénoncé après la lecture de ces recommandations.
Ces états généraux, on en parle dans le mini-magazine au cœur de la société que nous vous proposons chaque samedi. Il est présenté par Émile Nibasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idruya Onyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
C'était avant-hier lorsque les états généraux de l'éducation se sont clôturés à Bujumbura avec la formulation de plusieurs recommandations, l'insuffisance des ressources humaines et financières, le sureffectif des écoliers, élèves et étudiants dans les classes, etc. Les défis à relever dans ce secteur de l'éducation se situent à tous les niveaux. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 18 juin 2022, nous avons un invité, le professeur Libera Nibashirakandi. Andy, vous êtes enseignant à l'Université libre de Bruxelles. Je crois que vous êtes toujours là. Et puis, vous contribuez régulièrement depuis plusieurs années et dans le secteur de l'éducation. Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Je peux dire que vous avez également participé à ces états généraux de l'éducation qui se sont tenus à Bujumbura via Zoom, parce que c'était diffusé en direct sur Zoom. Il y a eu à la fin des recommandations qui visent entre autres la formation des enseignants à tous les niveaux, du préscolaire à l'enseignement supérieur, en passant par l'école fondamentale et post-fondamentale. On a également demandé qu'il y ait la collecte des fonds pour financer l'enseignement, les recherches et l'achat des matériels. Vous avez entendu le vice-président de la République qui a proposé, par exemple, au niveau de l'école fondamentale, que les natifs et la population qui contribuent pour la construction des écoles puissent également contribuer pour l'achat des bancs pupitres pour chaque classe construite. Et qu'est-ce que vous en dites?
Ça, c'est la démission du gouvernement, dans le gouvernement. Le rôle de l'État, il y a trois missions principales. C'est éduquer sa jeunesse. Éduquer, ça signifie de financer aussi les études. Deux, c'est soigner sa population. Trois, c'est alimenter sa population. Donc, si un gouvernement, l'État, dit les parents, financez tout pour l'éducation de vos enfants, je me pose la question, les impôts qui sont payés par la population, ça servira à quoi? À enrichir certaines personnes? Oui, les parents peuvent contribuer, là, les femmes de vos communautés, ça c'est le patriotisme, mais il est hors de question, pour moi, que les parents puissent, en plus, payer les livres, acheter les bancs, ça c'est le rôle de l'État, parce que tout simplement, les impôts sont payés par la population, justement, servent principalement à construire des infrastructures, notamment entre autres les écoles, à acheter du matériel, à payer les salaires des enseignants.
Je vais revenir sur votre proposition au niveau des États généraux. Vous avez demandé pourquoi le gouvernement ne pouvait pas faire en sorte que toutes les écoles soient des écoles d'excellence, au lieu de sélectionner. Est-ce que vous pouvez développer encore plus?
Ça me fait mal au cœur, cette politique de diviser, de faire des classifications. Quand j'entendais les mesdames des États généraux parler de grands groupes pour intervenir, et donc il y a cet esprit de faire des classifications, de diviser. Même dans les discours politiques, on ne s'en sort plus. Les exemples sont multiples. Alors, au niveau de l'enseignement au Burundi, il faut essayer de prendre des mesures qui permettrait à ce que toutes les écoles du pays soient meilleures, soient d'excellence. Parce que les écoles forment tous les enfants du pays. Ok, il y a des enfants qui émergent dans une classe, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut les séparer des autres. Parce que dans le système éducatif, il faut cultiver l'esprit de travail collaboratif, faire en sorte que les meilleurs remontent les moins faibles. Il faut vraiment privilégier la qualité de l'ensemble du système. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ceux qui fréquentent les écoles d'excellence sont véritablement les meilleurs. Parce que tout simplement, les conditions de travail, ils ont tout en fait. Ils sont à l'internat, comme dans le passé. Ils ont assez de matériel, ils ont les meilleurs enseignants. Mais quand on voit les résultats, pourrait se poser des questions en fait. Et d'ailleurs, qui sont ces enfants qui fréquentent les écoles d'excellence? Je parie que si on fait les statistiques, la majorité, ce sont des enfants des dignitaires ou des fonctionnaires de l'État. Donc, c'est la politisation justement de l'enseignement. Et c'est triste, hein? c'est vraiment regrettable. Donc, autrement dit, il faut encourager toutes les écoles à être meilleures. Il faut donner des moyens à toutes les écoles de la même façon. Question d'équité, et pas des classifications en fait. Ça date du temps de la colonisation. Et ici, aujourd'hui, on combat on dénonce le passé colonial. Ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, c'est exactement, c'est même pire que ce qui se passait du temps de la colonisation. Les trains n'avaient pas le droit d'aller à Sida. Aujourd'hui, certains Burundais et les plus pauvres n'ont pas le droit d'aller dans une école d'excellence, dans les meilleures écoles. Bientôt, ils n'auront pas le droit d'aller à l'université Burundi suite justement à cette décision. Vous voyez, ce que là, vous avez envie, c'est regrettable. Une nation doit être unie. La question d'équité doit être la même pour toutes les couches de la population et donner la chance à tous les Burundais de pouvoir pousser, étudier et pousser des études le plus loin possible. Je sais de quoi je parle. Ça renforce la médiocrité. On est classé une école qui n'est pas d'excellence.
Mais ils se basent sur les résultats scolaires.
Avant dans les années. Je parle de la période dans laquelle quelqu'un que je connais parfaitement bien, de notre temps, la qualité de l'enseignement venait d'où? On faisait même des compétitions de lecture de livres. Et les meilleurs apparaissaient. Il y a des excellents étaient là, dans toutes les écoles du pays. Et il y avait le concours d'entrée à l'université, le test national. Et on est merveilleux. Il y a donc des résultats qui disent qu'aujourd'hui, en global, ce qui se passe au Burundi, pour justifier cette école d'excellence, les enseignants sont obligés d'évaluer, de donner des points gratuitement. Puisqu'il y a cette mesure de fermeture des écoles qui ne font pas réussir, qui n'ont pas de bons résultats. Oui, il y a des mesures contradictoires. Bon, c'est discutable.
Dans ces états généraux, on a dit que les enseignants, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, ne sont pas formés en pédagogie universitaire. Donc, c'est la même chose au niveau de l'école fondamentale. Les enseignants ne sont pas finalement formés à enseigner.
Ça, c'est un drame, hein? C'est un drame parce qu'au Burundi, il y a des enseignants au niveau de l'école fondamentale qui enseignent des matières qu'ils ne connaissent pas, même des langues qu'ils ne parlent pas. Il y a des enseignants qui enseignent quatre langues, le français, l'anglais, le kirundi, le swahili. Il y en a qui n'ont jamais suivi un tel cours. Donc, il y a un problème de formation des enseignants. Avec, justement, ce discours mensonger de gratuité de l'éducation des enfants à l'âge d'être scolarisé, il y a cet engouement d'inscription. Donc, les écoles ont été débordées. Et le gouvernement a été obligé de recruter des enseignants qui n'ont jamais été formés. En plus du clientélisme, pour donner de l'emploi, bien sûr, aux membres du parti au pouvoir. Donc, il y a là un problème de formation initiale. C'est la raison pour laquelle une des recommandations des syndicalistes, vraiment, il faut saluer le courage des syndicalistes, d'organiser la formation initiale des enseignants, de créer des instituts de formation des enseignants dans chaque province. Alors, l'autre problème, c'est la formation continue, le recyclage, parce que la technologie évolue, les méthodes d'enseignement évoluent. Il faut un recyclage, disons, régulier des enseignants. Pour l'enseignement supérieur universitaire, dans le temps, il y avait une politique qui a été initiée sous Bagazla, qui est vraiment une politique de formation des formateurs. J'ai profité de cette politique, et bien d'autres, bien sûr, tous les assistants, les meilleurs. Il y avait une rigueur dans le recrutement des assistants, qui étaient envoyés après 2 ans d'assistanat à l'étranger pour faire un doctorat. Un doctorat en PhD, c'est-à-dire une thèse avec publication en fait, dans des revues scientifiques. Après 5 ans, normalement, on rentre avec une thèse. Il y avait la qualité. Et d'ailleurs, il y a très peu qui ont échoué leur thèse en fait. Le problème aussi, c'est que ces jeunes qui font le doctorat aujourd'hui ont évolué dans un système médiocre. Pour la raison pour laquelle ces états généraux auraient dû aborder aussi cette question. Donc, oui, c'est important que tous les enseignants de l'Université Burundi soient formés à la pédagogie universitaire. Je dis à l'intérêt numérique. Et je crois que nous tous, la majorité des Burundais, sont prêts à aider. En tout cas, mes collègues de l'Université Burundi savent très bien que je suis disponible.
Voilà, c'est la fin de la première partie de notre émission sur les recommandations des états généraux de l'éducation. La seconde partie, c'est samedi prochain. C'était Emile Niwasumba à la présentation. À la prochaine.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Terminons par cette revue de la presse présentée par Eddy Claude Nininas.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue, chères auditrices et auditeurs de la radio Inzamba Gate Kakawe. Commençons cette revue par le journal SOS Média qui écrit sur l'éducation. Selon le journal, la coalition des syndicats des enseignants demande le retour à l'ancien système éducatif. Lors des états généraux sur l'éducation tenus du 14 au 16 juin de cette année, Victor Ndabaniwe, président de la COSESONA, a dit que les réformes du système éducatif burundais poursuivies en 2014 ont entraîné la chute de la qualité de l'enseignement burundais. La suppression du concours national au niveau de la 6e primaire et du test de 10e n'a pas apporté de fruits. Comme conséquence, la démotivation des enseignants et des élèves qui estiment qu'il ne vaut plus la peine de fournir des efforts. Cette coalition demande le retour à l'ancien système remplacé par l'école fondamentale. Continuons cette revue avec le journal Iwachu qui écrit sur les droits des prisonniers. L'association Nawariza SPF indique que le nombre de 111 prisonniers récemment libérés est presque insignifiant. Jean-Marie Chimilimana, président de l'association, l'a dit lors d'une conférence de presse animée la semaine dernière. Sylvestre Nyandry, procureur général de la République, a indiqué que 106 hommes et 5 femmes ont été libérés de la prison centrale de Mimba. Ces prisonniers avaient commis des crimes qui ne sont pas graves. Selon le procureur, sont exclus de cette libération les crimes de sang, les atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l'État et les infractions concernant le port illégal d'armes. Jean-Marie Chimilimana demande que cette activité soit faite aussi dans d'autres prisons du pays. Il regrette que cette libération s'est effectuée plus tard, 6 mois après que le président de la République ait déclaré en décembre 2021 que les prisonniers qui n'ont pas commis de crimes graves soient libérés. Nous poursuivons cette revue avec le journal Burundi Echo qui écrit sur les difficultés que rencontrent les filles en situation de rue. Selon ce journal, il est vrai que les garçons en situation de rue galèrent et s'interrogent sur la vie de leur père féminin. Une clause est sûre d'après un témoignage d'un enfant récupéré par l'association Bon Geste. Les filles en situation de rue rencontrent beaucoup de difficultés. Elles sont violées et endossent toutes les conséquences qui s'en suivent. Terminons cette revue par Abbé Pinfo qui écrit sur les projets Miss Burundi élus en 2022. Dans le but d'appuyer au développement du pays, Kelly Ngaruko, Miss Burundi 2022, a lancé la semaine dernière à Kirundo son projet d'autonomisation des jeunes filles et femmes d'entre 20 et 30 ans. Selon Kelly Ngaruko, investir dans les jeunes filles et femmes permettra non seulement de créer leurs propres revenus, mais aussi cela pourra impacter sur les générations futures parce que ce sont les jeunes mamans qui vont éduquer et permettre l'épanouissement de la jeunesse. Voilà mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons la revue de presse de ce samedi. À la présentation, vous étiez avec Eddie Claude Nilazoué. Au revoir et bon week-end à tous.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Merci Eddy Claude Ninahazoué. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end chez vous et parmi les vôtres. Au revoir et à la prochaine.